I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est scénariste. Il a notamment travaillé à l'écriture des séries 10%, Les 7 vies de Léa sur Netflix, L'Opéra ou encore de la série Irresponsable sur OCS, dont il est aussi le créateur. Il est également l'auteur et réalisateur du court-métrage La vie au Canada avec Alison Chassagne, Sarah Zapat et Philippe Rebaud. Cet homme aux multiples talents, c'est Frédéric Rosset. Salut Frédéric.
Salut.
Comment ça va?
Bah ça va et toi?
Bah écoute, ça va très très bien. Je suis très content de t'avoir dans l'émission. On l'a vu, tu as écrit de nombreuses séries assez différentes. Avant de rentrer comme ça dans le cœur de l'année dont on va parler ensemble, Frédéric, j'avais une petite question. Qu'est-ce que tu trouves toi de plus passionnant dans justement ce métier de scénariste, dans ce processus d'écriture en général?
L'écriture de série, la série pour moi c'est un art plus collectif, on va dire peut-être que ouais. Là on va parler beaucoup de réalisateurs qui sont qu'on considère comme les auteurs de ces œuvres et sur les séries il y a un vrai travail plus collectif où le scénariste et réalisateur ou réalisatrice travaillent vraiment plus main dans la main. Et c'est presque la vie m'a amené presque par hasard à me concentrer sur l'écriture de séries et j'en suis très heureux, mais c'est vrai que j'ai autant envie de réaliser, autant de faire du cinéma et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait un court-métrage, mais du coup ça m'est entre guillemets tombé dessus, on va dire, par mon parcours, et j'en suis évidemment bien heureux. Je sais pas si je réponds très bien à ta question, mais
si, c'est une magnifique réponse, Frédéric. On va sortir des séries, maintenant on va s'attaquer à du cinéma et on va le voir ce mois-ci. Frédéric et moi, on s'attaque à un millésime que tout le monde normalement connaît, une année de cinéma exceptionnelle remplie de films majeurs, un très bon cru au sein duquel les réalisateurs du monde entier livrent au même moment leurs œuvres parfois les plus abouties. Par des codes revisités, des archétypes remaniés, le cinéma de cette année-là esquisse le portrait d'une époque désabusée, en doute certes, mais qui dialogue intensément avec ses démons et ses fantômes. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 2007. Umbrella de Rihanna, on écoutait ça en 2007. Alors pourquoi avoir choisi cette année-là, 2007, Frédéric?
C'est un peu par élimination. J'étais très méthodique en fait. Bon, déjà, il fallait que ce soit une décennie qui n'ait pas encore été faite dans cette dernière saison. Donc ça a annulé les années 80, 70, 90. Du coup, je me suis dit visons plutôt les années 2000 parce que c'est une décennie qui me parle, parce que c'est peut-être la décennie où est née ma cinéphilie. Alors en effet, j'ai vu plein de films qui dataient d'avant, mais j'allais aussi, c'est souvent la décennie où je suis allé le plus souvent au cinéma, où j'ai vu énormément de films en tant que jeune adolescent et ou jeune adulte dans le début de ma vie d'étudiant en cinéma. Et du coup ensuite la question c'était laquelle année choisir.
Ouais, voilà.
Moi j'ai beaucoup hésité avec 2001, d'ailleurs je n'en ai même pas parlé. mais en fait j'ai fait un truc très simple, c'est que il y a longtemps j'avais fait mes top 10 de chaque année des années 2000, et donc quand je suis tombé sur mon top 10 des années 2007, déjà j'aime énormément.
Que tu m'as envoyé d'ailleurs.
Que je t'ai envoyé du coup, ouais, je me suis dit j'aime beaucoup des films cités. Je voyais en plus des résonances entre plusieurs films et qui pouvaient permettre de les mettre dans un même thème et donc du coup d'en zapper le moins possible, parce que ça qui est tragique avec ton émission, c'est qu'il y a trop de films et pas assez de place.
On a réussi à mettre pas mal de films de ton top 10
au forceps, mais on y est arrivé.
Ouais, donc un millésime forcément intime, forcément voilà, et comme tu le dis avec un très très beau top 10, qu'on va décrypter ensemble pendant cette émission. Alors bah, justement 2007 c'est l'année De l'assassinat au Pakistan de Benazir Bhutto, figure d'opposition majeure du pays, en France de l'élection de Nicolas Sarkozy comme président de la République et de la fin au Royaume-Uni du mandat de Tony Blair après une décennie au poste de Premier ministre. C'est aussi l'année, souvenez-vous, de la sortie du tout premier iPhone présenté au monde par Steve Jobs le 9 janvier, de la sortie du 7e et dernier tome justement de la saga littéraire Harry Potter intitulé Les Reliques de la Mort, ou encore des premiers jeux des futures franchises cultes Assassin's Creed, Mass Effect et The Witcher. Mais 2007, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Et comme souvent dans les années 2000, le public va en masse voir des blockbusters et des suites. Spider-Man 3, Shrek 3, Pirates des Caraïbes 3 ou encore Harry Potter 5. Alors que Pixar nous propose sa Ratatouille, que Marion Cotillard incarne la môme Piaf et que les Hispaniques redessinent l'horreur avec Rec et l'Orphelinat, les grands films sont Légion, Zodiac, There Will Be Blood, Persepolis, Le Scaphandre et le Papillon, No Country for Old Men ou encore La Palme d'Or 4 mois, 3 semaines et 2 jours de Christian Mungiu. Et cette année-là, au cœur d'un cinéma américain généreux en pépites, un film d'apparence modeste va pourtant bousculer le genre du teen movie et nous introduire à toute une nouvelle génération d'acteurs et d'auteurs. Ce film essentiel au cœur de notre premier thème, c'est Super Grave. Are you man enough? Big and bad enough? Are You Man Enough de The Four Tops, c'est effectivement l'une des musiques du film Super Grave de Greg Mottola, film avec Jonah Hill, Michael Cera, Seth Rogen, Christopher Mintz-Plasse, Emma Stone et oui, Bill Hader, qui raconte l'histoire de deux meilleurs amis inséparables qui naviguent dans ces dernières semaines du lycée et qui sont invités à une gigantesque fête justement. Mais encore faut-il trouver de l'alcool pour rentrer à cette fête. Bref, voilà, c'est un peu le point de départ de ce film qui va... Mine de rien, ce petit film modeste de 20 millions de dollars de budget va être un succès un peu surprise au box-office puisqu'il va récolter 170 millions de dollars dans le monde. Et surtout, au-delà d'être un succès en salle et d'être aussi un succès d'estime, on va en parler, c'est un teen movie qui va marquer les esprits puisqu'il va rester l'un des films importants du genre, de ce sous-genre du teen movie, même 15 ans plus tard. Pour mettre un peu de contexte, on est 8 ans après American Pie et tout ce que ça a lancé, c'est American Pie, souvenez-vous, cette espèce de série de films où on avait cet adolescent très stupide, libidineux, très très stéréotypé. Et ben Super Bad, Super Grave va proposer lui une autre vision des ados et de ce film d'adolescent, du teen movie. Justement, Frédéric, qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce teen movie à la sauce Super Grave ?
Bah, ce qui est intéressant quand tu parles d'American Pie, c'est que à vue de nez, l'air comme ça, si tu regardes la bande-annonce, tu regardes même le pitch, tu te dis ça a l'air d'être à peu près la même chose que American Pie.
C'est la même histoire fait. Véritablement.
C'est deux mecs qui veulent c'est la fin du lycée et ils veulent coucher avec une nana avant la fin du lycée. Donc ça c'était le pitch d'American Pie. Toute l'idée était d'aller vers ce but et le film ne racontait rien d'autre que ça et l'idée était d'être graveleux, de jouer avec les codes. Et voilà, Super Grave.
C'est la même histoire quasiment.
C'est la même histoire, sauf qu'en fait, ça bifurque complètement. Et en fait, finalement, cet enjeu-là devient complètement accessoire. Et surtout, le fait qu'ils puissent arriver à cet enjeu et qu'ils ne veulent pas y aller raconte soudainement ce que c'est que vraiment l'adolescence, en fait. Tes deux meilleurs amis, qui sont donc Michael Cera et Jonah Hill.
Sont aujourd'hui des acteurs reconnus qui ont tourné dans plein de choses qu'on doit voir, voilà, qu'on doit voir chez Scorsese ou chez voilà.
Ils passent les 20 premières minutes du film à pas arrêter de parler de gonzesses, d'être ultra problématique, je ne sais pas comment dire autrement, entre eux à s'inventer des histoires, surtout le personnage de Jonah Hill qui est vraiment le lourdeau, qui semble être la caricature du petit gros un peu lourd qui est ultra obscène, ultra obsédé, qui dessine des pénis partout depuis qu'il est gamin et qui entraîne son meilleur ami un peu timide, un peu concon, mais
son trauma original d'ailleurs de dessiner des pénis partout. coup, il le raconte, t'as un flashback.
Oui, bah c'est là où tu vois que c'est un peu plus intelligent, la façon de raconter l'obsession des garçons, parce que tu vois que ce but absolu est une façade et une façon de... On leur a appris à être comme ça, et limite, ils ont peut-être grandi avec American Pie, et ils se disent, il faut qu'on fasse comme les mecs d'American Pie, quoi, c'est notre obsession. Et en fait, le film change totalement quand en fait il s'avère que c'est l'histoire d'une amitié entre deux gars qui vont pas du tout aller dans la même université, et il y en a un qui a pas été accepté et qui en fait ne pardonne pas à l'autre d'avoir été accepté dans l'université dans lequel ils visaient tous les deux. Finalement on se rend compte que ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas qu'ils arrivent à choper, c'est qu'ils se réconcilient, et c'est de raconter vraiment cette amitié masculine et de raconter vraiment que la vraie love story en fait c'est eux deux, c'est entre deux, et comment en fait évidemment c'est des garçons qui sont bourrés
d'insécurité,
d'obligation à, et qui se rendent compte qu'on est obligé à rien du tout, qui se retrouvent face à la possibilité de pécho et qui veulent pas. Le film a plutôt bien vieilli sur ses, contrairement à American Pie, sur les questions de,
parce que le
film a 15 ans et tu dis en 2007, d'ailleurs on en parlera d'un autre film ensuite, mais où tu dis il y a des choses qui ont un peu vieilli dans le rapport homme-femme, et celui-là je trouve n'a pas spécialement vieilli du tout. Faut dépasser les 20 premières minutes où les mecs passent leur temps à parler comme
des figures d'American Pie.
Oui, exactement, c'est
et
ça.
Après, ça démonte en fait tout le film, ça démonte un peu ces.
Exactement. On se rend compte que le portrait que veut faire que veulent faire les scénaristes, qui sont donc Seth Rogen et
Evan
Goldberg, qui ont fait beaucoup de choses ensuite.
Oui, Preacher, The Boys.
Ces gens-là qui avaient vraiment envie de parler d'autrement, de leur adolescence, de parler d'autres profils. Ça veut dire en effet, oui, on va parler des nerds, on va parler des frics, on va parler des mecs un peu bizarres, parce qu'on l'a été. Mais du coup, on va éviter toutes les caricatures dans lesquelles on tombait jusqu'à présent dans les films d'ado.
Moi, pour compléter ce que tu dis, je dirais que c'est effectivement, comme tu le dis, c'est des personnages qui sont très blindés ou criblés d'insécurité, et tu le dis, c'est un grand film sur l'amitié masculine, sur l'amour même masculin qu'on peut avoir pour son meilleur ami, pour des choses comme ça, et pour voilà. Et c'est aussi un grand film sur la peur de grandir, tu l'as dit, il voit cette flopée d'obligations, bah tiens, il faut qu'on soit comme ça, il faut boire, il faut être sûr de soi, il faut machin, et en fait c'est des gens qui disent mais en fait je sais pas de quoi demain sera fait, je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ma vie si j'ai pas mon meilleur ami à côté de moi, et pour l'un et pour l'autre. Et ce film est rempli de gens qui ont peur de grandir véritablement, enfin moi en tout cas je l'ai vu comme ça. Tu dirais que c'est une sorte de réponse sensible à American Pie, ce film là
ce qui se passe à ce moment-là, je pense que des gens qui ont vraiment été ces adolescents ont les moyens de raconter leur adolescence. Et c'est pas des gens qui essayent de raconter l'adolescence en ayant oublié leur adolescence ou en étant ou en racontant l'adolescence
qui
d'aujourd'hui
veut rester authentique,
en oubliant la leur. Ouais. On en parlera après, mais c'est une prod Apatow, et c'est un peu la patte de tous les films d'Apatow qui est à son firmament à ce moment-là, 2007. C'est vraiment c'est aussi pour ça qu'il y avait la logique de parler de ça, c'est que c'est une grande période de ces prods-là. On a pour point commun toutes ces prods-là d'être faits par des anciens nerds, des anciens geeks qui veulent parler de ce que c'est qu'avoir été ado, ou alors ce que c'est qu'être un adulte aujourd'hui. Et donc du coup la sensibilité, c'est que vraiment je pense qu'il y a ce fameux l'idée c'est pas de se moquer d'eux, c'est de rire avec. Et donc du coup je pense que
sur cette ligne très sensible entre rire avec ou rire d'eux.
Moi c'est un film qui a été important pour moi parce que donc en 2007 j'ai 19 ans. Donc du coup je suis sorti de l'adolescence, mais je m'en sens encore assez proche. Et donc je pense que j'ai à la fois le recul nécessaire pour me dire j'ai pas totalement leur âge, mais en fait je suis vraiment très proche. Et donc du coup là j'ai l'impression qu'on parle de moi il y a pas si longtemps en fait. Je sens que, et je me sens pas moqué en fait, et je pense que c'est la force première du film, en plus d'être une super comédie qui mélange extrêmement bien les genres, parce que comme je disais là on parle de la part sensible du film, mais c'est aussi extrêmement drôle dans sa vulgarité, dans sa folie, et c'est ce vraiment mélange de genres comiques qui fait que pour moi le film est extrêmement complet, extrêmement étonnant, et vraiment un gros classique aujourd'hui quoi.
Et moi j'aimerais juste pointer, et après on va enchaîner sur la suite de notre thème, que effectivement c'est toujours, si vous ne l'avez pas vu, évidemment on vous invite à voir Super Grave, et ce sera toujours un petit peu amusant à regarder, puisque c'est un film sorti donc en 2000 2007. Et c'est l'un des derniers teen movies, sans doute, avant l'ère des smartphones, parce qu'on l'a dit, l'iPhone arrive en 2007. Et là, on a un film qui est rempli de MySpace, de téléphones qui captent mal, de téléphones à clapet, qui sont parfois, du coup, des enjeux aussi d'écriture, des choses comme ça. Ça donne à ce film, comme ça, une espèce de dimension encore d'un film d'un autre temps, qui est pourtant la bordure. Mais c'est assez rigolo, ça le fixe aussi dans une certaine époque des années 2000 où il y avait les Skyblog, où il y avait les MySpace, où il y avait ces premiers téléphones que les ados avaient avant que, ben, mine de rien, 10 ans plus tard, on se retrouve à l'époque où tout le monde a un smartphone et où du coup le paradigme des relations humaines a complètement changé. Là, on est encore dans ce...
Oui, ça m'amène dans mon propre, dans ma propre adolescence.
Mais ça dit, et les auditeurs aussi, j'imagine.
C'est un film qui a fait beaucoup d'émules, en fait. Je pense que c'est encore aujourd'hui beaucoup de grands... de fiction sur l'adolescence.
Ah, c'est un film qui est cité.
Je pense que ça reste la référence principale. Bon, on a l'équivalent français. Je sais même pas si on peut pas dire que c'est une influence. C'est presque, il est arrivé en même temps. Enfin, il est sorti en 2019, mais c'est Les Beaux Gosses que je trouve incroyable et qui en fait a un peu la même ambition, je trouve.
Alors, comme tu l'as dit, c'est écrit par Seth Rogen et Evan Goldberg, qui est donc le duo derrière qui vont écrire plus tard la série Preachers. Seth Rogen, c'est The Boys, Nos Pires Voisins, etc. Mais surtout, on l'a dit, on l'a évoqué, c'est une production de Judd Apatow. Et Apatow dans les années 2000, donc Apatow c'est un scénariste, un réalisateur, un producteur, c'est l'homme qui est derrière la série Freaks and Geeks, vous connaissez surtout pour le film 40 ans toujours puceau qui a été un peu le film phare, voilà, ça ring a bell comme on dit, Funny People aussi, mais il est également producteur de The King of Staten Island qui est le plus récent. Et en 2007, Judd Apatow, il a une belle année puisqu'il y a donc Supergrave qui est donc ce film dont on a parlé, à majeur, mais aussi un film de moins bonne qualité, on va le dire, qui s'appelle En cloque mode d'emploi, qui est certes un film pas très bon, mais qui va être aussi un carton de 2007, puisqu'il va faire 220 millions de dollars dans le monde pour un budget pareil de 30 millions. Enfin, c'est un film qui coûte que dalle et qui va ramener quasiment 8 fois sa mise. Et du coup, Apatow, comme ça, et en producteur et en réalisateur scénariste, va avoir deux petits films qui vont ramener énormément d'argent, ce qui va confirmer que c'est l'un des auteurs majeurs de la comédie américaine des années 2000. Justement, on a commencé à l'évoquer, c'est quoi, Frédéric, pour toi, cette patte Judd Apatow
Lui, c'est assez simple de comprendre ses obsessions d'auteur, c'est parce qu'il a fait Freaks and Geeks en producteur et en fait donc l'idée c'est de raconter son adolescence dans les années 80 et de parler à la fois des freaks qui fument des joints, qui sont un peu à la marge,
les stoners,
des stoners, et les geeks donc un peu plus jeunes qui ne jurent que par Spider-Man ou par les jeux vidéo, les ordinateurs, tout ça, et d'en parler avec vraie sensibilité, une représentation pas du tout caricaturale. Et en fait, dans les films qu'il va faire ensuite, ces deux premiers films, il va s'intéresser à ces personnages-là devenus adultes. Mmh. Et donc en effet, il fait d'abord 40 ans toujours puceau où il dit c'est quoi un geek qui est devenu adulte, et à chaque fois il cherche le pitch
le
truc, voilà, pas Big Guns and Life, mais qui fait que c'est accrocheur. Là, l'idée c'est un geek qui a 40 ans toujours pas couché et a loupé le train et n'ose toujours pas coucher. Et ensuite, du coup, en 2007,
en cloque mode
d'emploi que
moi on a revu douloureusement.
Moi j'aurais voulu le défendre dans l'esprit, mais ça fait partie des films où je dis ah, faut qu'on parle d'En cloque mode d'emploi. Je le revois 15 ans après et je fais ah merde, ça a pris un coup de vieux.
Ça a pris un gros coup de vieux, effectivement.
Je suis peut-être pas aussi dur que toi, mais
donc l'histoire, c'est donc une présentatrice de télévision qui est de plus en plus populaire, qui est vraiment sur une courbe ascendante, etc. Et elle va se retrouver pour fêter justement sa promotion ou sa future émission dans une soirée avec un, pour le coup, Seth Rogen qui est un
C'est un stoner,
voilà, un mec qui ne sait pas, il est paumé, il sait pas quoi faire de sa vie. Il est sur un projet de site de cul où en fait lui et ses potes regardent tous les films, notent les time codes dans les films où les stars sont nues et du coup cherchent les scènes de nus des grandes stars pour comme ça, si tu cherches une star nue, au moins tu vas sur notre site et tu sais où c'est. Et du coup, bref, c'est un mec qui est paumé et il se retrouve dans une soirée et ils couchent ensemble et Catherine Heigl se retrouve donc enceinte et ils se retrouvent tous les deux dans ce bateau qui est la parentalité, alors que c'est deux personnalités qui sont totalement différentes et qui ont des vies totalement différentes.
Voilà. Et donc du coup, après avoir parlé des geeks, il parle des frics. Qu'est-ce que c'est qu'un fric qui, comme dans la série Freaking Geek, qui est devenu adulte, joué par Seth Rogen, qui est avec en plus du coup cette fois la, son accroche, son truc bigger than life, c'est ce que tu viens de raconter, sachant que c'est un truc particulièrement personnel parce que c'est ce qu'il considère avoir vécu, le jeu d'Apatow. Ça veut dire avec, que
sa femme
qui est dans tous ses films, qui est d'ailleurs dans ce film-là, mais qui joue pas donc le rôle de la femme qui l'a accroché, mais sa sœur, Leslie Mann, c'est quelque chose qu'il a lui-même vécu en fait. Il s'est tombé enceinte alors qu'il venait à peine de commencer. Lui était nobody et elle c'était une actrice en devenir. Et en fait, il s'est jamais, d'ailleurs, on va en parler après, mais il s'est jamais remis qu'une femme meilleure que lui, enfin qui est pas à son niveau selon lui, ait accepté de devenir sa femme. Et c'est quelque chose qui, et donc du coup, il a un rapport à la famille qui est très particulier. Parce que ensuite, son troisième film, il parle du troisième sujet qui l'intéresse, qui est le stand-up. Avec cette fois l'approche,
Funny People,
c'est Funny People, ou cette fois
avec
l'approche,
Adam
c'est Adam Sandler qui était son coloc, donc son très proche, et lui aussi il a fait une stand-up, et l'accroche c'est qu'il c'est un acteur connu de stand-up mais qui découvre qu'il a un cancer, et du coup qui a peur de mourir et qui se rend compte qu'il a personne dans sa vie en fait, qu'il est devenu très connu mais qu'il a absolument personne dans sa vie. Et après il a fait un quatrième film qui est donc une sorte de spin-off qui est
640,
donc 40 ans mode d'emploi, qui en effet c'est un mode d'emploi, c'est comme en cloque mode d'emploi, c'est on reprend des personnages secondaires, et cette fois on va parler juste de la famille, de ce qu'est c'est d'avoir 40 ans et de la famille.
Il y a Paul Rudd, voilà. Il y a machin.
Et là, il assume que son sujet, c'est ça, en fait, parce que le twist de tous les films qu'on a dit précédemment, c'est que le vrai sujet, c'est la famille. Même 40 ans toujours puceau, la seconde partie, c'est soudainement, il tombe amoureux d'une femme qui a déjà des enfants, et soudainement, on entre dans un délire de famille, en fait, famille recomposée, et soudainement, ça parle de ça. Funny People, bon, spoiler, mais au milieu du film, il découvre qu'il est guéri, il n'a pas le cancer, et du coup, ça l'amène aller vouloir revoir la femme de sa vie qu'il avait considéré comme étant la femme de sa vie, qu'il avait lâchée à l'époque et qui a refait sa vie avec un autre homme, et il veut essayer de la récupérer. Du coup, c'est la famille au point même où certaines personnes disent qu'il a un côté un peu réac, parce qu'il y a un côté et en cloque mode d'emploi, il est un des plus évidents.
C'est un peu pour nous Français, c'est un peu, j'imagine, compliqué, puisque il y a quand même cette question de Catherine Hegel se rend compte qu'elle est enceinte
et tout de suite c'est un couple,
et la question même de l'arrêt de cette grossesse là est évacuée extrêmement vite.
Elle décide de le garder.
La question est posée, mais elle est évacuée très vite, et du coup, comme tu le dis, ça devient un couple très très vite. Alors que
après, ce qui fait qu'on peut pas lui reprocher quoi que ce soit, c'est qu'il parle vraiment de lui. En fait, c'est son obsession, parce que c'est ce qui lui est arrivé. C'est Leslie Mann, pareil, apparemment était de ce que j'ai compris, était tombée enceinte par surprise. Elle décide de le garder et c'est devenu un couple. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vraiment, pour moi, il ne parle que de lui, que de choses qu'il et donc quoi qu'on lui reproche. C'est quelqu'un que j'aime bien dans son côté très parler de films très très très
intimiste.
Personnel, très intimiste. Mais ce qui est intéressant chez lui aussi, c'est qu'il a aussi une volonté de produire et donc d'amener d'autres voix à s'exprimer, comme du coup Paul Feig avec qui il avait coécrit
Amy Schumer quelques années plus tard. Là, on a King of Staten Island, on a
c'est ça. Et alors là, c'est lui en tant que réalisateur, quand il s'est dit j'ai plus rien à raconter, du coup je vais réaliser les films écrits par des auteurs et acteurs qui par contre ne veulent pas réaliser, donc il s'est mis au service d'autres. Ou alors évidemment Girls de Léa Dunham, je trouve que les épisodes qu'ils co-écrivent ensemble sont souvent les meilleurs dans Girls, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il devient très vite en tant qu'auteur co-auteur justement, quelqu'un, un très bon co-auteur pour des gens qui ont peut-être des choses à raconter plus intéressantes que ce que lui avait raconté dans ses propres films en fait.
Oui, parce que comme tu le dis, c'est quelqu'un qui, et on le voit dans ses castings, c'est quelqu'un qui reprend toujours les mêmes acteurs, c'est quelqu'un, tu l'as dit, il a grandi dans une génération comme ça, Adam Sandler, Seth Rogen, Paul Rudd, ils sont tous amis dans la vie, et comme tu le dis, il a un sens. Là, tu dis oui, le thème central de son cinéma, c'est la famille. Et moi, j'ai même envie d'étendre ça à l'idée que c'est la communauté. C'est-à-dire que tu as ce côté, effectivement, où, et dans son cinéma et dans sa vie, il y a cet esprit communautaire où, en fait, toute sa bande à lui, on va la retrouver comme ça, sa bande d'acteurs, Seth Rogen, Paul Rudd, Jonah Hill, Adam Sandler. Et dans ses cinémas, c'est toute une génération d'auteurs et d'artistes et d'acteurs qui vont, mine de rien, napper et donner le ton de tout ce qu'est la comédie américaine des années 2000-2010, et encore maintenant aujourd'hui, parce que Seth Rogen, toi, encore une fois, The Boys, même les succès, enfin, tu vois, Adam Sandler est toujours là, Paul Rudd, il est évidemment encore toujours là, il y a toute une génération de comme ça, d'artistes, d'acteurs qui sont, qui viennent de la génération et de la bande Apatow, et qui, on va dire, ils étaient très bien aussi tout seuls, mais on va dire qu'Apatow, a aussi permis un certain envol à ce niveau-là.
C'est le Dr. Dre de la comédie ou le Jay-Z de la comédie américaine US de la fin des années 2000.
Judd Apatow est le Dr. Dre de la comédie US américaine. Bah,
c'est-à-dire qu'il est peut-être meilleur producteur que réalisateur, comme qu'on va peut-être retenir surtout les artistes qu'il a découverts, qu'il a mis en avant et qui en effet il en a fait une famille, il en a fait une force. Et voilà, et même si donc du coup c'est quoi le problème dans Clock Mode d'emploi, c'est que en effet ça peut-être un peu vieilli dans le rapport homme-femme, où là pour le coup je trouve que le personnage de Catherine Hegel est vraiment
Anatomie.
Est vraiment pas très passionnant et vraiment un peu
elle le regrette, hein, Catherine Hegel, elle le dit je regrette, enfin, je pense, en fait quand j'ai accepté je pensais que ça allait se planter, enfin je pense que je le regrette rétroactivement parce que effectivement ça m'a vieilli, et quand elle a accepté elle dit ça va être un career killer. Bon, finalement, ça a été un succès de ouf.
Oui, Judd Apatow, je m'en souviens, elle lui avait répondu, mais t'as vu les autres comédies romantiques dans lesquelles t'as joué, et je suis un peu d'accord avec ça.
27 c'est... robes, t'as pas vu 27 robes.
Oui, ouais, bah voilà, donc c'est pas ce qu'elle a fait de pire, loin de là. Et j'ai pas non plus envie de dire que c'est mauvais, il y a un côté film de potes rigolo un peu, mais je trouve que le film. Dans ce qu'il raconte dans ses rapports amoureux, dans ses rapports hommes-femmes, dans les rapports dans la représentation de l'adolescent et tout ça, il y a quelque chose où tu te dis oh, putain ça
c'est pas ouf,
c'est, ça, c'est bien daté. 2007 ouais. C'était ça aussi, mine de rien, c'était il y a longtemps, il y a pas si longtemps, mais c'était il y a longtemps.
Et oui, nous sommes vieux, Frédéric.
Voilà, non mais c'est ça, là où Supergrave, je trouve, j'avais peur que ce soit ça, et en fait non, ça dépasse ça, donc c'est là où c'est
peut-être là qu'on voit la différence entre vraiment un bon film et un film qui peut-être est resté bloqué dans son époque.
Oui,
mais c'est peut-être comme tu le dis, je suis peut-être trop dur avec l'emploi de monde d'emploi, mais bon.
Du coup, ça m'a donné, parce que je ne les ai pas vus depuis longtemps, ça m'a donné envie de revoir les autres Apatow dont j'ai parlé. Moi, je conseille surtout, du coup, The King of... comment il s'appelle
Staten Island.
Pour le coup, je trouve vraiment... Il se met au service de quelqu'un de vraiment, qui avait vraiment un truc à raconter. Et je trouve que c'est vraiment un beau film. D'ailleurs, juste avant, Greg Mottola, qui a fait Supergrave, il a fait un autre film qui s'appelle Adventureland, juste après, qui est passé totalement inaperçu et qui est un chef-d'œuvre. Je crois que je le préfère encore plus à Supergrave
avec Kristen Stewart,
Ryan Reynolds et Jesse Eisenberg surtout, et qui pareil dans ce que ça raconte d'un garçon amoureux d'une fille qui s'en fout un peu de lui, je trouve que c'est très subtil, très intelligent, et c'est un peu dommage qu'après ces deux films là il a rien fait, mais qu'est-ce qu'il a fait après, c'est qu'il a quitté Apatow et ça a plus marché, quoi.
Donc, voilà, comme quoi si vous venez avec Apatow, peut-être restez avec Apatow. En tout cas c'est c'était le thème le premier thème de notre émission sur 2007, Judd Apatow, Supergrave, en Clock Mode d'emploi. Alors on pourrait vous conseiller de voir ou découvrir Supergrave, puis même de vous faire votre propre avis sur en Clock Mode d'emploi. En tout cas, voilà qui conclut parfaitement ce premier thème sur notre année 2007, et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de l'émission. Cette musique éthérée, c'est un extrait de la musique du film Rétribution, signé par le compositeur Kuniyaki Aishima. Rétribution, c'est l'un des films de 2007, puisque en 2007 sont sortis dans les salles françaises trois films asiatiques particuliers dont on va parler dans ce thème. Rétribution de Kiyoshi Kurosawa, Syndromes on a Century d'Apichat Pong Werasetakul et I Don't Want to Sleep Alone de Tsai Ming Liang. Trois films de trois réalisateurs, donc asiatiques, japonais, taïwanais et thaïlandais, majeurs, qui, toi, Frédéric, t'ont touché particulièrement, et tu voulais vraiment qu'on parle de ces films-là. Et c'est vrai que, je le rappelle encore une fois, Année Lumière est certes une émission qui parle d'une année de cinéma et qui essaye de donner comme ça une teinte d'une année de cinéma, mais c'est aussi et surtout le portrait d'un invité et le portrait du cinéma d'un invité. Et donc c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Alors pour remettre un petit peu de contexte, les trois films et les trois réalisateurs dont on va parler, c'est donc, souvenez-vous, Apichat Pong Werasetakul, c'est quand même le lauréat de la Palme d'Or avec Oncle Bunmi en 2010. Kiyoshi Kurosawa, c'est l'auteur de Cairo, de Cure, de Tokyo Sonata. Tsai Ming Liang, c'est l'auteur de La Saveur de la Pastèque, de Visage en 2009 et du récent Les Chiens Errants. Et aussi et surtout, c'est des films assez, comme tu l'as dit, intimes et assez importants pour toi, Frédéric. Justement, comment s'est passé, toi, Frédéric, ta découverte de ce cinéma asiatique? Qu'est-ce qu'il a apporté de différent à ta cinéphilie?
C'est mon père qui est très cinéphile, s'est mis à acheter plein de DVD quand on s'est mis à avoir le lecteur DVD à la maison. Et, là, et donc j'ai vu plein de gros classiques à ce moment-là, mais j'ai été particulièrement marqué quand il s'est mis à acheter Cure et Cairo de Kiyoshi Kurosawa, qui ont été des baffes, mais
c'est des films marquants quand même, hein.
Ils sont incroyables, il faut voir Cure et Cairo. C'est, en fait, en gros, Kiyoshi Kurosawa, c'est quelqu'un qui faisait du cinéma depuis déjà plus de 15 ans, il a commencé dans les années 80, mais on l'a un peu découvert en Europe et un peu partout dans le monde avec Cure qui est sorti en 97. Et donc tous les films qu'il a fait avant, c'est jamais sorti, ils sont honnêtement d'ailleurs un peu moins intéressants, même s'il y a des pépites, hein, mais vraiment, là il a franchi un cap quand il s'est mis à faire Cure. Et c'est un film, du coup c'est des films de genre, des films très atmosphériques, des films de fantômes. Et moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que c'était des films plastiquement incroyables. Et c'est des films avec une esthétique très minimaliste, ça veut dire que c'est des plans très souvent fixes. Quand il y a du mouvement, ça se justifie, il y a des cadres dans le cadre,
c'est pas ostentatoire, quoi.
Il y a vraiment un côté tableau vivant.
Oui, t'as du surcadrage
où vraiment la moindre fenêtre, le moindre miroir n'est jamais posé par hasard. Il iconifie beaucoup ses personnages à travers des choix de couleurs, donc c'est pour ça que vraiment je parle de peinture vivante, et notamment quand il se met à faire des films de fantômes, ces fantômes sont toujours figés, inquiétants, sans jamais attaquer vraiment, en fait. Ils sont juste là à observer. Ceux qui les voient souvent, c'est signe qu'ils ont aussi quelque chose en eux. Il y a une forme de contagion où tout le monde devient un fantôme croisant un fantôme dans Cairo.
Pourquoi on les réunit? Déjà parce que ces trois réalisateurs qui t'ont marqué en 2007, tu les as dans ton top 10, ces trois œuvres, trois films importants pour toi, mais aussi parce qu'ils partagent des thématiques communes. Tu le dis, les fantômes, les esprits, ou en tout cas ce dialogue, la mémoire avec Cézacul qui est beaucoup sur la mémoire, le souvenir. Donc ils partagent comme ça ce souci de la discussion comme ça avec soit le passé, soit les esprits, soit ceux qui nous ont précédés.
Alors c'est ça. À côté de ça, donc Apichatpong Wastakul et Tiamin Liang ils viennent pas du même pays.
Taïwanais, Thaïlande.
C'est pas non plus forcément totalement la même chose, mais ils ont le même truc du minimalisme absolu. Vraiment le minimalisme absolu en termes de scénario, en termes de cadrage, de découpage, mais du coup chaque cadre semble extrêmement pensé, et de filmer à la fois un quotidien d'un endroit qu'on connaît mal, d'un pays, d'une culture différente, mais en mettant de façon tranquille, je sais pas comment dire, poser une forme de fantastique, une forme de alors c'est vrai que le monde est mal fait parce que Tiamin Liang, c'est surtout son film précédent à dans le coin de Sleep Alone, donc Goodbye Dragon Inn, où il y a des fantômes, c'est des fantômes dans un cinéma, et donc c'est un film incroyable. Don't Want to Sleep Alone, il y a pas de fantômes.
Alors oui, 2007. Sachant que c'est des films qui sont là c'est des films effectivement qui sont sortis en France en 2007, c'est des films qui ont pu sortir dans leur pays en 2006, mais bien sûr on les inclut dans notre année 2007.
C'est ça, et c'est pareil pour Apichatpong Wastakul, le fantôme, c'est surtout son film d'après qui donc a eu la Palme d'Or, le Cold Boomy. Syndrome of the Century, c'est un film beaucoup plus concret, beaucoup plus réaliste.
Ça raconte quoi, Syndrome of the Century? Mais ça,
on est juste dans deux périodes. C'est un film coupé en deux, et en fait on est dans un hôpital, et en fait c'est à peu près les mêmes scènes, mais à deux époques différentes, dans un hôpital de campagne dans les années 90 et dans un hôpital moderne d'aujourd'hui. 2000. Comment dire? En fait, ce sont des films qui demandent à entrer totalement dans un rapport espace-temps différent, à accepter totalement un rythme différent, à te mettre dans une autre ambiance. Donc surtout, mais n'ayez pas votre portable à côté de vous. Le mieux, c'est de le voir évidemment en salle où t'es enfermé dans le noir. Ouais. C'est des films qui demandent cette rigueur-là. Ça parle de la solitude. Ah oui, c'est aussi ça. Ce sont des gens qui sont extrêmement seuls et qui en souffrent, et qui, dans tout le monde, Sleep Alone, le titre veut dire ce qu'il dit. C'est un mec mec qui vit dans la galère et qui juste a trouvé un matelas et trouve un copain avec qui dormir parce qu'il aime pas dormir tout seul en fait.
Oui, parce
et
que
c'est juste ça.
Parce que tu l'as dit effectivement. Donc là, il partage ces trois films-là, cette thématique du souvenir, hein, syndrome of Century de Wes Stakul. C'est ce dialogue entre, comme tu l'as dit, deux époques et à la fois l'époque de ses parents et la Thaïlande moderne. Donc t'as comme ça cette discussion entre deux décennies très différentes. Dans Rétribution de Kiyoshi Kurosawa, qui a ouvert notre thème avec cette musique particulière, c'est l'histoire d'un détective qui va enquêter sur une série de meurtres qui semblent être reliés entre eux, mais c'est assez étonnant. Et plus il avance, plus il se rend compte que peut-être qu'il est lié au meurtre d'une manière un peu étrange. Et en fait, être en même temps, au même moment, être choqué par les apparitions comme ça d'une femme, d'un esprit d'une femme comme ça étrangement vêtue qui prétend le connaître. Enfin, il y a un côté, voilà, comme tu le dis, c'est une expérience en tant que telle qui demande un certain abandon.
Bah, c'est là l'occurrence quand même, je trouve que Kiyoshi Kurosawa c'est plus facile à regarder.
C'est, oui, c'est le plus, c'est, on va dire, c'est le moins objet, quoi.
Et surtout Rétribution, qui est un film narratif de fantôme un peu plus classique, avec un pitch quand même assez vendeur, je trouve. Et en plus, il a ce truc de l'efficacité narrative où pour le coup il est,
c'est une enquête,
ça va vite, quoi, franchement. Oui. Et là soudainement le film bifurque quand soudainement tu suis un autre gars qui se fait emmerder par son fils qui est un vrai petit con, qui lui demande de l'argent et tout, et soudainement ce gars du coup tu se mets à suivre une autre histoire, et d'un coup ce gars se met à prendre son fils, à l'amener dans un chantier et à le noyer dans exactement le même mode opératoire, et après il y a quelqu'un d'autre qui va aussi faire ça, et en fait au bout d'un moment tu te dis mais en fait c'est comme un serial killer, sauf que les gens admettent qu'ils ont tué, mais ils en ont aucun souvenir après, ils comprennent pas pourquoi ils ont fait ça. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que ça rappelle énormément Cure, qui est exactement un pitch similaire. Des gens tuent, des gens très différents qui ne sont pas reliés, tuent un de leurs proches, qui les énervait, qu'ils avaient envie de buter, mais
en vrai,
ils l'auraient. Exactement, comme ça arrive à tout le monde. Sauf que ce qui se passe, c'est que ils le font. Alors qu'en fait, toi, quand t'as envie de tuer un proche, tu le fais pas. Non, et bah, eux, ils le font, et après coup, ils font, je sais pas ce qui m'a pris. J'en ai aucune. À vrai dire, j'avoue, j'avais envie de le tuer, hein, mais je sais pas ce qui m'a pris. C'est le même personnage qui est joué par cet acteur absolument génial, Koji Yakusho. Et donc, cet acteur qui, avec un blouson, un look vraiment de flic fatigué,
c'est un père, ouais.
C'est un père qui enquête dans Cure et qui lui-même a envie de buter sa femme, sauf qu'en fait, enfin, lui-même a des problèmes avec sa femme et il se demande s'il va pas être contaminé aussi. Il y a un vrai jeu de contamination. Et ensuite, il y a Cairo qui sort, où là, il y a l'idée de des fantômes contaminent les gens et tout le monde devient fantôme progressivement. Si jamais tu croises un fantôme, tu deviens fantôme à ton tour. Et il y a un côté, qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, je trouve qu'il a fusionné ces deux chefs-d'œuvre pour, dans son scénario, pour faire Rétribution, qui a sa propre identité aussi. Et ça donne un film un peu somme, qui d'ailleurs représente
et la fin d'une certaine époque pour lui, parce qu'après, il fait Tokyo Sonata, et puis d'autres films après qui sont dans un autre ton totalement.
Exactement, il fait des très grands films après, mais c'est vrai qu'à partir de ce film-là, il se met à abandonner un peu le fantôme, un peu le genre, parce que je pense qu'il y avait un peu le signe de... D'ailleurs, c'est pas la seule fin de règne dont on va parler, mais c'est un peu la fin d'une époque pour lui. C'est un peu un champ de signe de cette envie de ce style-là, quoi.
Justement, tu parlais du film de fantôme. J'ai envie de faire un parallèle un petit peu peut-être étonnant avec Supergrave et le thème précédent, mais c'est vrai que là, on est en 2007. On se rend compte qu'en 2007, on a ces films-là qui partagent ces thématiques comme ça, du fantôme, du souvenir, de l'esprit, des choses comme ça. Tu l'as dit, on va en parler juste après. Ces fantômes sont un petit peu différents. On est en 2007 quand même, sans doute à la fin d'une vague, quand même de nombreux films de fantômes asiatiques qui ont nappé comme ça tout le cinéma et asiatique et international, puisque rappelez-vous, à la fin des années 90 et au début des années 2000, on avait des films comme Ring, comme The Grudge, comme Darkwater, comme justement Cairo, on en a parlé, donc avec cette mode qui a dépassé les frontières du Japon, qui a dépassé les frontières de la Corée, et qui est comme ça arrivé dans les territoires occidentaux, cette mode du fantôme un petit peu belliqueux. Et là, tu es en train de me dire que en 2007, peut-être 10 ans après le début de cette vague de films de fantômes méchants, on va dire, on a enfin des fantômes un petit peu différents, des fantômes qui ne sont pas agressifs, des fantômes apaisés. À quoi ils ressemblent ces fantômes ? Comment il a évolué ce genre du film de fantômes ?
Après, c'est très proche de Kurosawa, parce qu'il le faisait déjà en 2001 avec Cairo, ouais. Mais c'est des fantômes statiques, c'est du minimalisme en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne tue pas des gens, mais en fait, on ne les voit jamais tuer. Ce qui est inquiétant, c'est l'iconisation d'une figure à travers juste une couleur de robe ou un objet, un style. On peut dire que Ring, c'est pareil, avec sa doko, avec ses cheveux longs. Et voilà, c'est assez minimaliste, et comment ils arrivent à faire flipper flipper avec pas grand chose. Mais là, vraiment, il y a un côté où tu sais pas si tu dois te flipper ou fasciner, en fait. Et en effet, alors, ce qui va au-delà ensuite, c'est justement les fantômes de Tian Minyang dans Goodbye Dragon Inn ou Uncle Bomi pour Happy Chapon Wastakul, où pour le coup, l'idée, c'est que c'est pas du tout des fantômes agressifs, c'est des fantômes qui sont parmi nous et nous acceptons, et quand nous les voyons, c'est que nous voyons un autre monde, en fait, et donc nous entrons dans une autre réalité. Et ces personnages qui vivent ça, on a en empathie avec eux, parce que nous aussi, spectateurs, on voit un film avec un rythme, un style, un genre pas du tout pareil, une sorte de mélange. De, tu demandes si tu regardes de l'art contemporain ou un film de cinéma, tellement que c'est abstrait.
Et c'est vidéo.
Et voilà, c'est ça. Et donc, du coup, y a une sorte de fascination pour. Et donc, c'est assez intéressant, en effet, que ce soit la figure du fantôme qui revienne aussi régulièrement. Mmh. Parce que le but n'est pas d'être un film d'horreur. Le but est de raconter quelque chose de beaucoup plus sociétal, de beaucoup plus moderne, mais à travers un certain onirisme. Et ce qui paraît très contradictoire et pourtant marche extrêmement bien. Et Kurosawa, c'est ça dans Rétribution, c'est que l'explication de ce fantôme est extrêmement concrète, très sociale. Ça raconte une histoire moderne du Japon qui a abandonné des hôpitaux psychiatriques et qui a abandonné des patients qui sont morts là-bas alors que c'était juste devant eux quand ils passaient devant le ferry. Là je reste abstrait, je sais pas si je vais expliquer.
On
va pas gâcher les trucs, mais du coup il y a quelque chose soudainement de très concret, de très social là-dedans, et en fait
c'est des films qui sont pas forcément des films de fantômes, mais c'est des films qui sont de souvenirs.
Exactement.
C'est des films qui demandent à se souvenir d'eux.
Exactement.
Comme si on faisait comme les films d'une certaine manière, comme les films sur la Shoah, comme les films sur là le Japon interroge ce passé oublié.
Et
là, c'est fantôme via ce genre très
exactement,
cadré.
Mais t'as bien résumé ça. Ça veut dire qu'on est au-delà du film d'horreur. Et ce qui est intéressant avec Kurosawa, je pense, c'est que lui, il trompe en faisant croire qu'on est dans un film de genre. On est techniquement dans un film policier. On est techniquement dans un film de fantôme, comme on l'entend. Ça veut dire ça te rend à avoir peur. Mais en fait, ça va bien au-delà. En fait, enfin, ça va bien au-delà. Ça raconte autre chose finalement. Finalement, c'est beaucoup plus un film expérimental, en fait, tout simplement, mais caché derrière un genre un peu plus grand public, on va dire, quoi.
Formidable. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose de particulier sur ce thème-là ou
disons que si vous n'avez pas vu Cure, si vous n'avez pas vu Cairo, si vous n'avez pas vu Rétribution, si vous n'avez vu aucun film de Tian Minyang, si vous n'avez vu aucun film d'Happy Chapin Wastakul, il faut tenter, en fait.
Oui, mais en plus, Cure, Cairo, Rétribution sont des films qui sont tout à fait accessibles. Enfin, c'est toujours des cinéastes qui ont, comme tu l'as dit, des propositions fortes et qui sont des cinéastes encore aujourd'hui et majeurs. Et qui sont présents comme ça régulièrement et dans des festivals internationaux, et voilà, qui sont dans le panorama mondial. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, je pense que on en a bien parlé. Rappelons effectivement ce thème avec I Don't Want to Sleep Alone de Tsai Ming-liang, Rétribution de Kiyoshi Kurosawa, Syndrome and the Century de Happy Chapong Wastakul. Donc trois films comme ça qu'on a voulu réunir au
bravo, parce que c'est pas facile à dire tous ces noms.
Bah oui, mais c'est pas évident. Mais
voilà. J'ai un truc à ajouter. Happy Chapong, c'est le nom de mon chat. C'est dire à quel point je suis fan.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dont tu as partagé une magnifique photo sur Twitter.
Mais oui, bah oui, bien sûr, parce que il est très beau, comme les films Happy Chapong, c'est pour ça.
Bah voilà de quoi conclure formidablement ce deuxième thème consacré à l'année 2007. On s'en va sans plus tarder vers notre troisième et dernier thème de l'émission. Someone's always coming around here, trailing some new kill. Says I seen your picture on a $100 bill. What's a game of chance to you, him as one of real skill? So glad to meet you. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. That you add up all the cards left to play to zero and sign up. Don't start me trying now. Merci beaucoup Elliot Smith. Angeles, qui fait partie de la bande originale du film Paranoid Park, qui va être l'un des films au cœur de notre troisième et dernier thème. Puisqu'en 2007, on l'a dit au tout début de l'émission, c'est une grande année de cinéma, c'est une grande année particulièrement de films magnifiques, dont Paranoid Park, dont on va parler juste après. Juste après quoi? Juste après une flopée de films policiers, de films polars, puisque 2007, c'est une grande année de films policiers. No Country for Old Men des frères Coen, Gone Baby Gone de Ben Affleck, Zodiac de David Fincher, La Nuit nous appartient de James Gray. On a comme ça plein de polars particuliers qui sont aujourd'hui des grands films. Qu'est-ce qu'ils nous disent de 2007?
Et parce que en fait, la particularité, c'est que ce sont pas tous vraiment des polars au sens premier du terme. Par contre, ils ont tous la même une figure commune qui est soit le personnage principal, soit pas le personnage principal, qui est un flic
et qui nous intéresse. Ouais.
Et qui et en fait, dans ces films-là, la particularité, c'est que ces flics ne cessent d'échouer. C'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils sont face à quelque chose qui les dépasse. Soit ils ne résolvent pas l'enquête, soit quand ils la résolvent, ils ne savent pas quoi en penser,
soit ils sont en décalage par rapport à l'époque dans laquelle ils sont, on peut penser à No Country for Old Men.
Et il y a un vrai truc de... Alors ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces films ressemble à leurs auteurs. Et on y viendra individuellement ensuite, hein, parce que chacun a vraiment sa spécificité de chacun de ses auteurs, donc ils sont pas, c'est pas des films clones, loin de là. Par contre, ils ont vraiment cette même ambiance un peu à quoi bon, un peu désabusée. Donc, et je pense que c'est uniquement lié au fait qu'en 2007, les États-Unis, ça va pas, quoi. C'est-à-dire que c'est la fin de règne de l'ère Bush, et on sort d'une période où ils étaient fuck yeah America en allant se venger du 11 septembre, et ils sont allés faire la guerre en Irak. Sauf que là, la guerre en Irak, c'est un échec. Il commence à de plus en plus être évident qu'ils n'avaient rien à aller y foutre. L'idée de dire qu'il y a un ennemi extérieur avec l'Amérique est une victime se perd de plus en plus.
Ouais, ça ne marche pas.
Et en plus, il y a eu un problème interne chez eux avec Katrina. Alors, tous les films dont on parle n'ont pas toujours été écrits après Katrina, mais je pense quand même qu'il y a une espèce de mood général de fin de règne.
Tu lirais ça, la présidence Bush, effectivement.
À la fin d'un règne, et en fait, qui est assez proche, je trouve, de l'époque où les États-Unis s'embourbaient dans la guerre du Vietnam, et qui a aussi donné un cinéma US très désabusé à ce moment-là. Et en fait, je trouve que les Américains sont dans leur cinéma populaire, pas gros blockbuster, mais dans leur cinéma d'auteur. Ne sont jamais autant intéressants que quand ils sont en bad, en fait, quoi. Quand ils sont quand ils sont vraiment en mode putain, en fait, on est des gros nazes, et donc à nouveau dans cette ambiance de ce qu'on disait, désabusé, à quoi bon, ils échouent, on assume de montrer ça, on trouve ça intéressant de montrer ces gens qui échouent.
La figure du policier, elle est importante dans le cinéma américain, c'est une figure qui en 100 ans de cinéma revient régulièrement. Elle commence comme parfois une figure moquée, le burlesque, etc. Elle arrive comme une figure triomphante, puis elle redevient désabusée, puis elle redevient triomphante. T'as un côté cyclique dans ce tropes de la figure, on va dire, de justice. Donc qu'il soit shérif, qu'il soit policier, mais c'est un peu la même idée. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir que dans les années 2000, on a cette figure-là qui est tellement importante, qui est comme ça dans cette logique d'Aquabon. Et pourtant, alors que c'est des films qui sont qui ne se passent tous pas dans les années 2000. La Zodiac se passe dans les années 60, et pourtant il raconte beaucoup de ce qui se passe dans les années 2000, donc t'as un côté deux époques se parlent.
C'est toujours intéressant quand tu fais un film d'époque de réfléchir à l'époque où a été fait ce film d'époque, parce que toujours on veut un peu parler de notre époque quand on parle d'une autre époque. Et donc le fait de s'intéresser au tueur du Zodiac et à cette fameuse affaire qui est un traumatisme américain, parce qu'on n'a jamais on n'a jamais su qui était le tueur du Zodiac, et donc se dire je vais faire un polar sur une histoire où en fait on a échoué, on n'y est pas arrivé. Donc avec en plus il y a des journalistes, les personnages principaux c'est des journalistes, mais il y a un flic qui est joué par Mark Ruffalo et qui en plus c'est assez intéressant parce que le flic qui est joué par Mark Ruffalo, c'est celui qui a inspiré Clint Eastwood pour Dirty Harry. Donc au contraire le flic,
personnage riganien, magnifique,
le flic fuck yeah, j'en ai rien à foutre, je gagne tout le temps en dépassant les règles, et là c'est un mec qui est dépassé et qui a inspiré pourtant Clint Eastwood, mais qui là face à cette histoire de Zodiac n'y arrivera pas, ne trouvera jamais la solution, et donc à nouveau, il échoue, et je pense que c'est pas pour rien qu'il a décidé de faire ce film-là, Fincher, à ce moment-là. C'est probablement mon Fincher préféré, même de très loin. Et à côté de ça, bah, tu vois, les frères Coen, quand ils font The Country Fallman, qui est, alors, pareil, un de leurs meilleurs, et un film beaucoup plus calme et posé que les derniers qu'ils avaient fait, pareil, ça leur ressemble. Eux, ils sont plus dans l'absurde, dans l'idée qu'il y a un méchant qui représente le mal incarné, qui va poursuivre un américain moyen, basique, qui veut juste récupérer de l'argent, et qui, sauf que le problème, il se trouve dans sa route, et donc c'est la course entre ces deux hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que le flic ici, du coup, est joué par Tommy Lee Jones. Formidable. Et Tommy Lee Jones, c'est juste un spectateur. Oui. Il arrive toujours avec
Durtar, après coup.
Il prend le lead en tant qu'acteur principal seulement sur la toute fin pour juste pointer le fait de se dire, mais
je ne sais pas quoi
faire. Ce monde est absurde, je ne sais pas quoi faire, je suis dépassé, je suis dépressif. Ouais. Regardez dans ma tête, je ne comprends plus. Je ne comprends plus les États-Unis, je ne comprends plus mon pays.
Formidable, ce personnage de flic qui ne sert à rien, enfin, qui est là pour dire désolé.
C'est ça. Et donc, du coup, il y a un humour noir, ça joue vraiment sur l'absurde et sur le mal incarné qui semble pas réaliste. Donc, c'est du frère Coen pur jus, mais pourtant, pareil, ça correspond. Ça conclut la même chose de je ne reconnais plus mon Amérique, je ne reconnais plus, je ne sais plus à quoi je sers en tant que flic. Et à côté de ça, donc, t'as James Gray qui lui fait La nuit nous appartient, ou alors là, c'est plus. C'est toujours une histoire de famille. Lui, c'est comment je ne veux. Comment éviter l'héritage familial et comment finalement c'est mort, je vais y retomber. Et là, c'est un mec qui veut pas être flic et tout. Sa famille flic, et en fait tout va l'amener à devenir flic malgré lui. Et donc du coup c'est peut-être le seul film où à la fin le mec gagne, sauf et à la fin il est flic.
Est-ce qu'il gagne vraiment,
c'est ça, et c'est ça. Et en fait c'est sur la même, et en fait c'est une vraie fin à la James Gray, où tu te dis est-ce que c'est bien ce qui lui arrive à ce type, ou est-ce qu'en fait il vient de creuser sa tombe, il est tombé dans ce qu'il voulait éviter, devenir flic. Sur la façon de représenter le policier, c'est très très étonnant, et ça correspond bien, je trouve, à son. Enfin, je trouve ça intéressant qu'il ait fait ça en 2007.
Tu dirais, toi, que c'est cette figure désabusée du flic est plus liée à, c'est plus la fin de 8 ans de Bush que fortement.
Bah, disons que l'Amérique a dû faire le deuil de l'image qu'ils avaient d'eux à partir du moment où ils se sont fait défoncer leur tour jumelle, là. Et donc, du coup, ils sont passés par les 7 étapes du deuil. Et donc, il y a eu la colère au départ. Donc, peut-être que les films du début des années 2000, dans ce style-là, sont un peu plus colériques, un peu plus fuckier. Ils sont sortis du déni et ils ont un peu accepté le fait cet événement du 11 septembre, c'est pas juste des méchants qui nous ont attaqués, on va leur foutre la raclée, on va rappeler c'est qui le patron et tout va bien, qui finit bien. Non. Déjà, c'est nous qui avons créé ces méchants. Aller les attaquer en allant faire la guerre en Irak, ça n'a aucun sens. Donc, ça prouve bien qu'en fait, notre gouvernement ne savent pas du tout quoi faire. Donc, en fait, c'est qui vraiment les méchants dans l'histoire ? On ne sait pas. Et donc, ils sont paumés. Et donc, du coup, ça donne ce cinéma-là à ce moment-là. Ça représente cette étape-là du 11 septembre. Et bon, bah, après, ils sont reconstruits en votant Obama et en pensant que
c'est un autre cinéma, effectivement, à partir de Obama. Et c'est toujours intéressant de voir. Je vous invite, comme ça, chers auditeurs, à regarder vraiment la corrélation entre, même en France, d'ailleurs, de la corrélation entre les présidents. De nations, et notamment l'Amérique ou la France ou même l'Angleterre, et le cinéma que ça produit, hein, aux États-Unis, c'est assez flagrant. Il y a comme ça des grandes périodes très reaganiennes, très Bill Clinton, très Bush, très machin. C'est assez flagrant.
Et j'ajouterais même un film important qui est Bugs de Friedkin, qui revient soudainement. Et là, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de, mais ça montre un soldat parano qui pète complètement en plomb et qui c'est un huis clos dans un hôtel où il croit qu'il a des.
Formidable.
Et ce film qu'il a des insectes en lui, il va rendre folle sa compagne, enfin la fille qu'il vient de rencontrer, qui va entrer dans sa parano, et je pense que c'est aussi ça correspond à cet ensemble de l'Amérique va mal, quoi, en gros. Quoi.
Et puis une espèce de parano grandissante qui infeste tout le monde. Alors justement, on l'a vu, il y a tous ces films de polar de policiers avec cette figure policière particulière, désabusée, on l'a dit. Mais il y a aussi le film qui a musicalement lancé notre thème, qui est sorti également en 2007, qui est Paranoid Park de Gus Van Sant, qui raconte comme ça l'histoire d'un jeune adolescent skater qui se retrouve un peu au centre d'une histoire qui se passe à Seattle, puisqu'il est à Seattle. Il y a un mort, il y a quelqu'un qui a été tué comme ça dans une gare, enfin dans un espèce de transport de fret, et il se retrouve comme ça accusé ou au cœur comme ça d'une enquête policière où il y a un mort. Et lui, c'est un jeune adolescent skater avec toute cette question de qu'est-ce que c'est d'être adolescent, qu'est-ce que c'est de vouloir ce qu'on veut dans quelques années, avec ces histoires de cœur, ces histoires d'appartenance à une communauté. Le Paranoid Park
qui est le titre du film, et le nom d'un parc de skate qui est au cœur également du film. Donc c'est un film très Gus Van Sant. Quel rapport toi t'entretiens avec Gus Van Sant? Je sais que c'est un cinéaste qui est important pour toi. Pourquoi tu voulais qu'on parle de Parliament Park?
Je pense que Gus Van Sant est mon cinéaste préféré des années 2000. Ça veut dire, je pense que c'est celui qui a fait le strike du siècle dans les années 2000 avec 4 films d'affilée qui représentent une période très très particulière de sa filmographie, 4 trilogies qui sont Jerry, Elephant, Last Days et donc ce dernier film Paranoid Park qui sont et en fait ce mec là justement avait un coup d'avance, il a tout compris aux années 2000 et donc tout ce que, c'est aussi pour ça que c'est un peu lié à notre thème, c'est que le côté Amérique dépressif d'une manière totalement différente qui lui appartient, il l'a fait là avec ces films là qui aussi font un peu penser aux films de Tian Milyang ou Happy Shopping ou Rasakul dont on parlait parce qu'ils sont très lents, très c'est vraiment c'est un mi-chemin entre l'art contemporain et le cinéma. Quand il fait Jerry qui est l'histoire de deux mecs qui sont paumés dans le désert et qui ne retrouvent pas leur voiture et qui finissent par marcher dans le désert pendant une heure et demie.
Effectivement.
Et donc ça, c'est adapté d'une histoire vraie qui s'est passée dans les 90. Après, il fait Elephant qui est inspiré de ce qui s'est passé à Columbine.
Donc
la tuerie qui est arrivée dans les années 90. Et après, il fait Last Death qui est les derniers jours de Kurt Cobain avant son suicide, qui est pareil, un truc des années 90. Donc il parle de sujets, de faits divers des années 90 très américains, mais au début des années 2000, au moment où il y a le 11 septembre et tout ça, et qui est une façon de raconter que c'était déjà là en fait. Notre pays va... rien ne va déjà. Et ce qui est intéressant avec Paranoid Park, le film conclusif de cette période-là, c'est l'histoire d'ado. En fait, c'est l'autre versant de ce que c'est que d'être adolescent en 2007 que Supergrave.
Ce qu'il faisait déjà Oui, c'est pour ça qu'on a, on a hésité à relier d'ailleurs les deux films. Oui. Parce que c'est quand même, comme Supergrave, c'est aussi un film d'adolescent avec les mêmes sujets, les mêmes thématiques. Il y a une petite copine, il y a cette idée d'avoir une relation sexuelle pour la première fois, il y a cette idée de bah tiens, il faut que j'aille skater là où les gens vont skater, il y a qui sont mes amis, il y a une relation avec le père qui est particulière.
Je trouve qu'il y a une radioscopie d'une Amérique à la marge sur ces 4 films là et dans Paranoid Park, c'est encore un film d'adolescent comme Elephant, mais c'est pas du tout un film qui se répète. C'est pas un film dépressif dans le sens où l'adolescent est mal et réagit et essaye de vivre avec le traumatisme qu'il a vécu, qu'il a exactement comme Supergrave. Il y a une fille qui va absolument coucher avec
lui. Mêmes films finalement, c'est peut-être les mêmes.
Il y a une fille qui va absolument coucher avec lui et lui veut pas du tout coucher avec elle, donc il y a ce truc aussi de montrer un truc un peu différent de c'est plus les filles qui sont sexuellement prêtes et les mecs qui sont en mode je sais pas si je suis prêt et bon il y va.
T'as un côté bloqué, t'as un côté enfance adulte, t'as un côté je préfère rester dans ce côté bloqué dans l'enfance à faire du skateboard et jusqu'au moment où il y a cette discussion avec son père qui libère sans doute quelque chose en particulier. Mais du coup, c'est très intéressant. Et puis pour les gens qui connaissent pas Gus Van Sant, c'est quelqu'un. Alors déjà, moi, je vous conseille Will Hunting, qui est peut-être, je l'ai revu. Alors c'est son film le plus connu. Effectivement, vous avez sans doute peut-être déjà vu, si en tout cas vous êtes curieux, vous avez peut-être déjà vu Will Hunting. C'est ce film avec Robin Williams et Matt Damon, avec Matt Damon qui est un petit génie incompris, inconnu, et qui va se révéler comme ça au contact d'un psy qui est Robin Williams. Et le cinéma original de Gus Van Sant, c'est un mélange comme ça de ces figures jeunes, ces figures un petit peu vaporeuses, détachées, spectatrices, pas désabusées, mais un petit peu en l'air, comme ça, éthérées. Plastiquement, le cinéma de Gus Van Sant, c'est un mélange comme ça de... Il aime comme ça mélanger des plans 8 mm, des plans 16 mm. Il va changer comme ça d'image, avec une image très cinématographique, avec un autre ratio. Il va comme ça mélanger les ratios, mélanger les qualités d'image pour donner une sorte de sensibilité et de densité à son image, à son propos, qui est assez intéressante. D'ailleurs, dans le Paranoid Park, ça se voit très bien, puisque toutes ces séquences de skateurs qui font du skate sont en caméra DV, et comme ça, il joue comme ça avec la granularité de son image pour évoquer comme ça le souvenir, la mémoire, et peut-être aussi cette adolescence qui est pour lui lointaine, on va dire.
Quand je revois Paranoid Park, je redeviens l'adolescent, ou plutôt le jeune adulte que j'étais au moment où le film est sorti. Je me retombe totalement dans les souvenirs que... Enfin, je me souviens...
Un voyage dans le temps.
C'est un voyage dans le temps aussi, ça me rappelle... Il y a vraiment... Et ça, c'est quelque chose qui est lié au fait que c'est un cinéma, je pense, extrêmement sensoriel.
Oui, voilà.
Qui cherche extrêmement à faire sentir que vivent les personnages et pas du tout, du coup, être psychologisant. C'est pas du tout des films de scénario où les personnages racontent leurs états d'âme ou quoi que ce soit. On les vit à travers vraiment l'image, à travers vraiment des situations extrêmement, en effet, éthérées. inspiré, extrêmement minimaliste.
Il y a une dimension organique dans ces films.
Oui, tout à fait. Un rapport à la musique extrêmement fort aussi. Donc, y a beaucoup de musique, mais elle est jamais gratuite.
Mmh. Et puis, effectivement, pour mettre un peu de contexte, rappelons que Gus Van Sant, on parle de granularité, on parle de ce ressenti, ce feeling très particulier de ces films, et ben c'est aussi parce que c'est un vidéaste à la base, c'est un artiste qui va tout le temps être dans une réflexion de qu'est-ce que l'image, donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et pour les clips et pour le monde musical et aussi beaucoup pour le monde artistique en général, donc c'est un créateur d'images avant tout, donc c'est pour ça que dans ces longs métrages de cinéma, on retrouve ce questionnement sur... qu'est-ce que l'image, qu'est-ce que la vidéo, qu'est-ce que le montage, qu'est-ce que je peux raconter avec tout ça, et c'est pour ça que ces œuvres sont assez atypiques.
J'ai retrouvé un artbook fait à l'époque de Parliament Park où c'est que des photos oui. Faites sur le moment avec des textes oui. Et c'est une œuvre en soi en fait, c'est aussi passionnant à regarder que le film.
Il est très connu pour Gus Van Sant pour ses séries de Polaroid, parce qu'il a, dans les années 90 et même 2000, il a pris beaucoup de Polaroid de stars ou de jeunes talents qui plus tard sont devenus des stars très connues, et notamment on va en parler dans les recommandations de fin d'émission, mais il me semble qu'il y a une série de Polaroid sur le tournage de Lost Highway ou même de Mulholland Drive avec comme ça ces séries d'acteurs
ah ouais
juste prises comme ça,
ah, je savais pas,
et
ça.
Donc il y a un lien comme ça entre Gus Van Sant et David Lynch qui n'est pas si anodin que ça, mais en tout cas voilà, il est très connu pour ça. En tout cas voilà, Gus Van Sant, un réalisateur extrêmement important, qui est important pour Frédéric et qui est l'auteur donc de Paranoid Park, ce film dont on vient de parler. Voilà qui conclut ce dernier thème, mais on ne va pas vous laisser là, on va pas se quitter avant de vous partager nos quelques coups de cœur de cette année 2007, tous ces films dont on n'a pas pu parler dans les thèmes et qu'on va vous conseiller. Voilà le tour de nos petites recommandations. Alors Frédéric, toi tu avais plusieurs films à conseiller aux auditeurs, des films qui sont sortis en 2007 et dont on n'a pas pu parler. Qu'est-ce que tu voudrais conseiller aux gens qui nous écoutent ?
Bah, le premier c'est peut-être mon film préféré de cette année en fait, mais c'est donc David Lynch qui, mine de rien en fait, c'est l'autre grand cinéaste des années 2000 pour moi, parce qu'il a fait Mulholland Drive et Inland Empire et paf, Drop the Mic, il se barre et alors c'est pas forcément le film le plus aimé pour plein de gens, Inland Empire, c'est un drôle de film tourné en DV avec une image très particulière pour la liberté que ça proposait, un de ses films les plus abstraits, je pense que c'est son film limbique comme on dit, où j'ai le plus, où j'ai vraiment renoncé à comprendre ce que ça raconte concrètement. Ouais. Lost Highway ou Mulholland Drive, il y a toujours quelques scènes où je suis en mode, je comprends pas le sens de ces scènes, si ce n'est qu'ils voulaient les faire, quoi. Mais je comprends l'idée globale de.
Okay, ça raconte quoi, Inland Empire, si c'est.
Inland Empire, c'est là où
si on peut raconter Inland
Empire. Je renonce vraiment à comprendre, si ce n'est qu'il y a quand même un point de départ qui est, c'est une actrice jouée par Laura Dern, qui n'est pas une grande actrice, en tout cas qui n'est pas très connue, mais qui est engagée dans le rôle principal avec Justin Theroux dans un film réalisé par Jimmy Irons. Et sauf que ils commencent à tourner ce film, sauf qu'ils apprennent en cours de route que c'est un remake, en fait, ils ne le savaient pas, d'un film qui n'a jamais été tourné jusqu'au bout, parce que les deux acteurs de ce film ont disparu sans explication en plein tournage. Et évidemment, progressivement, il se passe des choses étranges et on se dit ce qui va lui arriver aussi, mais en fait, ça part dans une direction. Le film va dans une direction au bout d'un moment où en fait, c'est une succession de scènes. Je vois bien qu'il y a des thématiques qui sont très lynchiennes d'ailleurs. Il y a notamment d'ailleurs la violence faite aux femmes, et ce film-là est particulièrement marquant là-dessus. Laura Dern est incroyable, elle donne tout. Les meilleures grimaces de Laura Dern sont dans Inland Empire, et vous savez, pour qui est fan de Laura Dern, ça veut dire beaucoup, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très très forte en grimaces et en gueule pas possible, mais qui, moi j'adore, c'est l'une des raisons qui fait que j'adore cette femme, c'est qu'elle fait
des tronches pas possibles.
Elle exprime des choses incroyables et vraiment là, elle donne incroyablement tout. Le film est fascinant et dur. Plus de 3 heures et en fait moi je lâche pas, je suis à fond dedans et
qui demande à être vu en salle, demande un certain abandon, une certaine rigueur.
Oui. Bah j'ai regardé chez moi et j'ai réussi à avoir la rigueur tout seul dans moi. Ce qui est d'ailleurs très bien.
Tu aimes bien les films qui demandent une certaine rigueur.
J'adore ça, bien sûr. Mais des films où en effet c'est mieux de les voir au cinéma.
Toujours.
Et pour vraiment être totalement dans un autre monde. Et surtout c'est le dernier film de Lynch. Ça veut dire que oui. C'est vraiment.
Après, il va faire la Twin Peaks la suite. Oui. Mais c'est le
mais
dernier. long métrage.
C'est une série.
Le dernier, non, mais c'est le dernier long métrage de David Lynch.
Et surtout, il fait ça 10 ans plus tard et il va faire beaucoup d'art contemporain. Et en fait, quand tu regardes Inland Empire, tu te dis, oui, bah, en fait, il a plus envie de faire du cinéma. C'est un film où tu te demandes si sa place est dans un musée ou au cinéma. Et
sa place est dans un musée.
Et moi j'adore. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je trouve que ça donne vraiment des œuvres totalement atypiques. Et là, c'est peut-être celui où il a allé le plus loin. Des gens n'ont pas forcément suivi le délire, mais je pense aussi que. Et donc, c'est toujours difficile pour des cinéastes de vieillir. David Lynch a dit « Je me casse ». Et j'ai un énorme respect pour ça, en fait. Parce que du coup, il n'a pas fait un mauvais film. Aucun.
Donc là, Inland Empire de David Lynch, regardez-le, c'est le recours de Frédéric. Et tu voulais conseiller un autre film également,
Je voulais en profiter deux autres, mais alors j'y vais très 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 vite. Déjà, Todd Haynes qui a fait Another, biographie de Bob Dylan avec six acteurs différents, sachant que c'est des versions parfois totalement fantasmées et folles. C'est l'avant-dernier film de Heath Ledger qui et aussi Cate Blanchett qui joue la version la plus réaliste, la plus biopic de Bob Dylan, sauf que c'est Cate Blanchett qui le joue.
Bien sûr.
Film fascinant, je vais pas entrer dans les détails, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film, et j'aime beaucoup Bob Dylan, et j'aime beaucoup Don Haynes. Et aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du US, heureusement, on a eu une partie asiate, mais c'est vrai qu'on a pas du tout parlé du cinéma français. Et en fait, c'est une année un peu spéciale, l'année 2007, parce que c'est la fin de règne de grands réalisateurs comme Rivette ou Romer, qui sortent leur dernier film, ou avant-dernier, mais leur dernier vrai important. Ils sont morts juste à ce moment, juste derrière. Et c'est aussi le premier film de plein de gens qui comptent aujourd'hui et maintenant. Je sais que tu vas en parler.
Justement,
un peu,
je vais en parler.
Mais moi, alors désolé, parce que il y a plein de réalisatrices notamment qui font des premiers films et je vais parler d'un réalisateur mec et comme ça, j'aurais fait que des mecs. Désolé, c'est pas cool. C'est Stack de Dupieux qui est un film qui moi me fascine, qui était vendu comme une comédie de Eric et Ramzy, comme d'hab. Et en fait, c'était un film de Quentin Dupieux et personne ne savait qui c'était ce mec. Et ça a surpris tout le monde et c'est un film qui est devenu culte.
Quentin Dupieux, Mister Oiseau, d'abord qui est donc devenu célèbre dans le monde de la musique, qui après a glissé vers le monde du cinéma.
Je pourrais en parler longtemps, mais je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on est on est déjà très long et je pense que vraiment le plus important c'était peut-être Lynch.
Inland Empire, Steak.
Et I'm Not There.
Et I'm Not There de Todd Haynes, effectivement. Voici les recos, les coups de cœur de Frédéric pour cette année 2007. Et moi, je vais vous donner comme ça un petit dernier film avant de vous quitter. Ma recommandation pour 2007 sera Naissance des pieuvres de Céline Sciamma. Pourquoi? Qui raconte du coup l'histoire le temps d'un été de trois jeunes filles de 15 ans, Marie-Anne et Floriane, qui vont vivre l'éclosion comme ça de leur sexualité. Pourquoi j'en parle? Simplement parce que c'est le premier long métrage de Céline Sciamma. Et comme tu l'as dit, 2007 est aussi une année importante parce que ça signe comme ça le début, la naissance à l'écran d'une génération de réalisateurs qui vont compter plus tard et d'un cinéma assez particulier qui va comme ça marquer le cinéma français des 15 dernières années, puisque Céline Sciamma fera des films formidables comme Tomboy, comme Bande de filles, comme évidemment Portrait de la jeune fille en feu, dernièrement Petite Maman. Et dans Naissance des pieuvres, on a déjà tout son cinéma, on a déjà toutes ses thématiques chères. Le questionnement de la sexualité, celle du genre, l'expérience féminine et même du désir féminin dans toute sa complexité. On a aussi déjà, on va dire en fil rouge, très sournoisement, le traitement comme ça du regard masculin de l'homme. Il y a comme ça cette évocation des injonctions du patriarcat, d'un certain harcèlement général comme ça d'un regard masculin. Et puis on a aussi la tendresse du regard, ces nouvelles héroïnes assez modestes et modernes qui vont trouver comme ça plus tard dans les années 2010-2020 un écho générationnel important. Voilà, tout ça naît avec Naissance des pieuvres en 2007 avec ce premier film de Céline Sciamma, c'est pour ça que je voulais en parler.
Adèle Haenel dedans.
Et avec, bien sûr, Adèle Haenel.
Notre révélation incroyable.
Voilà, révélation d'actrice formidable. Enfin voilà, c'est ma petite recommandation. Voilà qui conclut cette émission d'Année Lumière consacrée donc à 2007. Merci encore à mon invité Frédéric Rosset. Merci Frédéric.
Merci.
Merci à toi. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. Merci également à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de partager l'épisode et de suivre le compte Twitter d'Année Lumière. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.